c'est le Toulouse Hacker Space Factory, et non pas festival comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait taper sur les doigts, et ben on va en parler tout de suite dans le magazine. Qui seront à l'affiche de ce Toulouse Hacker Space Factory qui a lieu ce week-end, enfin d'ailleurs dès jeudi du 25 au 28 mai à Mixart Miris, bien sûr, comme à chaque fois.
Comme à chaque fois.
Toutes les éditions. Alors c'est la, ça fait combien de temps que ça existe ce THSF?
Alors c'est la 8e édition, première édition en 2010, dès le départ, un an après que le TTLab se soit installé à Miris, et dès le début, collaboration avec Mixart Miris.
Oui, c'est ça, les deux sont intimement liés. Alors autour de cette table, pour parler de cette édition du Toulouse Hacker Space Factory, on retrouve Herveline. Salut.
Bonjour.
Donc toi tu viens plutôt, toi tu bosses à Miris, hein, justement, à Mixart Miris.
Chargé de développement.
Chargé de développement, un terme un petit peu, hein, ça sent un peu la novlangue administrative. Et on a Fred, toi tu viens du TetaLab.
Tout à fait.
Voilà, donc un des organisateurs, le co-organisateur, on peut dire, avec Mixart Miris du THSF, on pourrait le dire comme ça.
Du TetaLab, on peut dire ça.
Voilà, et puis Pauline, toi tu es, salut.
Salut.
Tu fais partie de l'association, en tout cas du collectif Un Archer dans l'IOCA.
Oui.
Et toi tu t'es occupé plutôt de la partie musicale, c'est ça, hein, de cette édition
c'est
du THSF.
Ça. Oui.
Voilà, alors on va déjà peut-être ce serait pas mal pour démarrer. Alors déjà je vais dire quand même aux auditrices, auditeurs, si vous vouliez entendre le morceau entier de Rien Virgule, il est assez long, on va vous le passer en intégrale en fin de magazine. Alors déjà, on va peut-être préciser qu'est-ce que c'est déjà un hackerspace, et ça pose à la fois le terme hackerspace et même le terme hacker tout court, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, et j'avoue que moi le premier, pour moi un hacker c'était un pirate informatique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui venait contourner les failles de sécurité, qui était essayé de craquer des systèmes. Or c'est pas forcément ça un hacker. Un hacker ça peut être aussi un virtuose de l'informatique, quelqu'un qui crée des programmes, enfin je me tourne vers toi du coup Fred, membre du TetaLab, pour préciser un petit peu ce terme hacker.
Ok, ben ouais, ben c'est bien d'avoir cette occasion, parce que au-delà même de l'inconscient collectif, quand on va sur internet et qu'on tape Larousse Online par exemple et qu'on voit qu'est-ce que c'est un hacker, la seule définition qu'il y a c'est une personne qui détourne de l'argent à des fins mal intentionnées. Et en fait non, hacking ça vient du mot hack, du verbe to hack en anglais, et en fait c'est d'un côté, comme souvent les verbes ont plusieurs sens, et donc effectivement il y a le côté de détourner, mais qui là pour le coup est pas forcément détourné à des fins mal intentionnées, hein. Ça peut être détourné à un objet existant pour faire autre chose avec que ce dont il était prévu pour au départ. Et l'autre, qui devrait être la première définition, c'est la réappropriation. C'est-à-dire qu'un hacker, quand il démonte un objet, c'est c'est pour comprendre comment il est fait et pour être capable éventuellement soit de l'améliorer, soit d'en refaire. Mais c'est pour se réapproprier des choses. Au final, on achète tout un tas d'objets dans la société. Et la plupart de ces objets sont fabriqués par des gens à qui on a gratuitement appris à faire quelque chose. Et en fait, eux nous le vendent parce que là, on est dans une société marchande. Et donc, il faut payer très cher, par exemple, pour acheter prenons un appareil électronique, on va dire, pour... voir un truc plus simple. Et du coup, on parle ici d'obsolescence programmée, par exemple. Très souvent, les machines sont faites pour durer un certain temps. Et en les ouvrant, on se rend compte qu'en changeant une ou deux pièces, tout de suite, le truc dure deux ou trois fois plus longtemps. Et donc, c'est se réapproprier la technologie, la connaissance plus généralement. Et après, ça peut aller même jusqu'à se réapproprier la politique aussi, ou d'autres notions. Hein, c'est-à-dire, les humains parlent de plein de choses. À quel moment on peut interagir avec ça? Est-ce qu'on est obligé de suivre des définitions quand elles ne sont pas forcément très ouverte, est-ce qu'on est quand même obligé de les suivre ou est-ce qu'on peut voir les choses autrement?
Oui, et puis alors dans le milieu de l'informatique, évidemment, particulièrement, c'est vraiment l'industrie qui impose ses normes, son rythme de sortie des produits, des innovations, etc. Enfin voilà, qui impose ses règles. Et c'est vrai que du coup, là, dans le hacking, il y a quelque chose de comme tu l'as dit, de réappropriation, et en tout cas de contourner ces règles qui nous sont imposées. Quoi.
Ben, c'est justement par rapport à l'informatique, c'est le concept du logiciel libre, où il y a libre et open source. Open source, c'est que le code, on va dire, le programme, le langage en fait, du logiciel est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut regarder le code pour voir comment a été fait le logiciel. Et libre, ça veut dire qu'il est gratuit dans l'échange, en fait, c'est-à-dire il n'appartient à personne. Du coup, y a tout un tas de licences qui existe maintenant plus ou moins libre selon les définitions des licences. Mais l'idée est celle-ci, c'est que en fait, quand il y a un besoin, est-ce qu'on attend que les industriels fabriquent et vendent ou est-ce qu'on fabrique et ensuite on s'échange et on fait entre nous?
Alors ça c'est plutôt une part innovation, je vais dire, mais comme tu l'as dit, il y a aussi une part réappropriation, c'est-à-dire des choses existantes, et puis on va voir comment ça fonctionne et comment... Oui. Vas-y, tu...
Non, en fait, j'ai failli tiquer sur le mot innovation. C'est un mot qui est très peu employé dans les hackerspaces, parce que...
Je te vois qu'on l'emploie pas beaucoup sur cette antenne non plus, okay. Ça va être la première fois que...
Mais c'est vrai que le concept d'innovation est lié au concept de propriété intellectuelle, qui est lié au concept de libre-arbitre, et ça c'est un... En fait, c'est pareil. Si on lit Platon, on fait « Ah, d'accord, super, le libre-arbitre, génial. » Et puis tout un tas d'autres philosophes par la suite. Et après, on peut se dire « Mais c'est marrant, il y avait d'autres philosophes au même moment qui disaient autre chose. Et est-ce que vraiment on a ce libre-arbitre, cette propriété intellectuelle ? Par exemple, on fait des études de physique ou d'ingénierie. En fait, toutes les équations qu'on apprend sur le chemin ont été travaillées par d'autres humains et on nous les passe. Et à la fin, on invente, soi-disant, un objet. » Moi, j'ai envie de me poser la question de est-ce qu'on invente vraiment ? Est-ce que le mot inventer correspond bien à quelque chose de réel ? Est-ce que le mot, du coup, innover ? C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de nouveau ? Ben non, j'ai pas cette impression-là. Et en fouillant, en tout cas, j'ai pas eu du tout cette impression dans les domaines de la recherche et de la physique et tout ce qui est lié à la science. Et du coup, partant de la science, on arrive à la technologie et donc à l'industrie. Et donc là, on peut commencer à dire, mais attendez, les circuits imprimés, les résistances, etc., vous n'avez pas inventé ça. Donc vous nous vendez ça, mais en fait, ça, c'est des choses que vous avez appris à la fac. Donc on peut commencer à aller fouiller un peu dans les formes de fonctionnement de sociétaux, on va dire. Donc c'est un des propos dans le hackerspace.
Il y a quelque chose là, politiquement, d'offrir au plus grand nombre aussi, du coup, des compétences techniques, de ne pas être dépendant, je ne sais pas comment le dire, mais d'un système industriel.
Oui, voilà. Puis c'est un peu le vieux proverbe, le vieil adage, apprends pas de ne pas manger un homme, apprends-lui à pêcher. Et en fait, c'est ça. C'est que le jour où on peut tous réparer nos machines, voire en créer, en fait, on n'a plus besoin d'industrie et de grosses boîtes qui s'enrichissent en vendant du matériel obsolète rapidement. C'est-à-dire, on fait autre chose, en fait. On se réapproprie, en fait, la matière et la nature qui nous entoure, quoi.
Alors, on reviendra un petit peu sur l'aspect politique au sens large du hacking, mais du coup, là, ça nous amène sur les hackerspaces en soi-même, donc des lieux où on hack. T'as défini un petit peu comment ce que c'était le hacker
space, c'est le lieu où en fait on a envie de partager et de participer, de contribuer à la culture hacker, du coup, qui est au croisement de donc tout ce qui est logiciel libre, matériel libre aussi également, défense et des droits et des libertés sur Internet également, comment faire aussi pour, par exemple, on parle beaucoup d'attaques de cyber, ou de cyberattaques, et en fait, comment aussi, à l'inverse, on peut se rendre compte...
Ça fait la une, là, c'est dans le temps.
comment à un moment aussi on peut, quand on envoie un mail, faire en sorte qu'il est impossible d'altérer l'information qu'il y a dedans, ou si on le fait, ça déforme carrément l'information qui est dedans. Enfin, c'est-à-dire le support, entre guillemets. Et dans ces cas-là, les gens peuvent savoir qu'on l'a altéré. Et ça, ça peut servir au-delà du hacking. Ça sert pour du journalisme, en fait, par exemple. Un journaliste observe quelque chose sur le terrain, il envoie un message, c'est reçu par une forme de comité de censure qui déforme ce message. Et si personne ne le sait, on croit que le message est tel qu'il est sorti après le comité de censure. Donc, comment faire pour que l'information soit conservée telle qu'elle ? Comment faire pour être crypté quand on est dans des conditions où on ne peut pas parler librement, en fait, aussi, également.
Alors, est-ce que le Theta Lab est un hackerspace ?
Ben, le Theta Lab, c'est un hackerspace et c'est un groupe de gens, en fait. Au final, un hackerspace, c'est un groupe de personnes qui est intéressé par, on va dire, la culture hacker. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, c'est le cas depuis le départ, en fait. Hein, les fondateurs, en 2009, avaient vraiment à cœur cette culture-là. Et ont commencé en bricolant. Bon, c'est très connexe à la technologie, à l'informatique, à l'électronique, à la soudure. Il y a quand même une culture qui est quand même assez, on va dire, technologique, on va dire, autour de ça. Donc voilà, le but, c'est de contribuer. En fait, l'idée, c'est d'apprendre pour ensuite transmettre. Que d'autres puissent apprendre et transmettre. C'est le, on va dire, presque, c'est un héritage qui est l'héritage de celui, on va dire, de, pas de l'enseignement, mais en fait, on va dire, de la recherche ou de l'université, un peu, en quelque sorte, quoi. Apprendre pour ensuite pouvoir transmettre et pas propager, on va dire, mais en tout cas partager avec le plus grand nombre, quoi.
Alors, quel est un hackerspace, ça peut être un lieu permanent, on est d'accord, il y a des hackerspaces qui sont installés, ils sont là et on y va voilà, aux horaires d'ouverture. Il y en a d'ailleurs pas mal, hein, je vois là, qui seront présents sur ce THSF, par exemple le Alice Lab de Perpignan, le Hackstop de Strasbourg, le Bib de Montpellier, il y a également le Pola de Pau, etc., etc., etc.
Le Jack de Montreuil.
Et du coup, la question, c'est pourquoi faire un Toulouse Hacker Space Factory, donc en fait un festival de 4 jours, pourquoi 4 jours, pourquoi pas avoir ouvert en tant que Theta Lab, quitte à le faire d'ailleurs, à voir chez Myris s'il n'y avait pas une place, pourquoi pas avoir ouvert un lieu plus permanent que simplement ces 4 jours de festival.
Alors le THSF est l'événement de 4 jours, mais derrière, le Theta Lab est un lieu permanent, c'est un des ateliers.
Le Theta Lab est un Hacker Space,
oui, tout à fait, d'accord, le Theta Lab est un Hacker Space qui est installé à Mixart Myris.
Et donc l'intérêt des 4 jours, c'était...
L'intérêt des 4 jours, c'est de pouvoir accueillir un maximum de gens dans tout un tas de... En fait, bon, dans la culture hacker, aussi, l'art et la culture font partie des choses qui intéressent. Et du coup, c'était l'occasion là d'accueillir des artistes, on va dire, plasticiens, musiciens aussi, expérimentateurs. Et donc, il faut 4 jours pour accueillir plein de gens super... Et bien en profiter.
Ouais, ça permet de créer une émulation. Pardon.
C'est vraiment un projet monté en collaboration avec les artistes de Mixer et le Theta Lab qui est hébergé là. Il y a eu une vraie envie liée à l'émulation de Mixer et des rencontres entre les membres du Theta Lab et des artistes de Myris de créer un événement comme on en fait régulièrement dans l'année autour de cette culture hacker avec cette singularité d'être sur toutes les questions dont a parlé Fred déjà, mais aussi sur élargir à vraiment un côté de la création artistique qui rejoint en fait ces questionnements-là et qui rejoint aussi le principe du collectif Mixer Myris avec cette question du détournement, de la réappropriation des politiques culturelles, des lieux de création, de diffusion, etc. Donc c'est l'occasion, c'est un des gros temps forts de Myris aussi en tant que collectif, au-delà du gros temps fort pour la vie du hackerspace du Theta Lab. C'est pour ces deux entités, c'est un très gros temps fort sur l'année puisqu'on consacre 4 jours effectivement avec plus de 150 invités autour de questions qui croisent vraiment les problématiques d'un hackerspace comme le Theta Lab, mais aussi d'un collectif d'artistes comme Mixer.
J'imagine que c'est pas trop compliqué d'embarquer les artistes de Myris dans l'histoire THSF, dans l'aventure THSF, surtout que maintenant elle est bien installée.
Ils sont très intéressés par la programmation. plus que par l'organisation, mais en fait non, il y a aussi ce principe du THSF, Fred et Pauline pourront en parler, qui fait que, enfin, qui est lié à comment fonctionne Myris aussi, et qui fait que chaque année, c'est un peu des personnes différentes qui prennent en charge l'orga. Nous, après, on est une petite équipe salariée à Myris qui accompagne les artistes et les hackers du Theta Lab qui seront sur chaque édition sur l'organisation, mais voilà, ça bouge chaque année qui est derrière le THSF, et du coup ça fait aussi la singularité de l'événement chaque année, c'est-à-dire que c'est à la fois depuis 8 ans ça existe, et depuis 8 ans ça change aussi chaque année de visage, même si on a la même formule d'associer vraiment conférences, ateliers, installations plastiques, créations sonores, concerts, etc.
Ouais, c'est ça, c'est, donc tu l'as dit, hein, y a aussi, je vois des lightning talks, des présentations éclairs, c'est ça? Ça, c'est nouveau?
C'est une nouveauté pour cette année, oui. En fait, c'est venu d'un passage au festival Passage en scène HSF, PSES HSF. C'est un rassemblement de hackers à Paris organisé par le TMP Lab, qui est un des plus anciens hackerspace en France et qui a inspiré les premiers du Theta Lab pour faire quelque chose d'identique. Et en fait, voilà, ils avaient effectivement des formes de conférences éclairs. Et donc, on essaye ça cette année aussi.
Ouais, donc entre 5 et 20 minutes, dit le programme. Il y a aussi des conférences simples, hein, plus classiques. Et alors, dans les conférences éclairs, il y a tout un tas de thèmes, hein. Je vous laisse aller voir ça sur le site web thsf.net, mais il y en a une qui m'a plu, c'est le code est politique, les algorithmes sont des armes mathématiques de destruction.
Voilà, donc ça va être une conférence éclair de Benjamin Cadon de l'entité Labo Média, que je vous conseille d'aller explorer, visiter. Ils ont un site web qui sont d'Orléans, effectivement, et donc qui va être très sympa, et il a une approche assez rigolote via le néoludisme, donc ce mouvement qui est né en fait du ludisme et qui était, enfin, c'était dans les années 70, quelque chose comme ça, où les néoludites qui voulaient détruire les ordinateurs et les machines, qui étaient donc et donc il a une approche assez marrante de ce côté-là. Donc je vous invite à aller voir cette conférence, ça devrait être très sympa.
Alors voilà, donc ça c'est les conférences éclairs, les conférences simples. Tu l'as dit, Herveline, il y a aussi des ateliers, des workshops. Il y aura du live évidemment, on va en parler longuement avec Pauline. Pas mal de propositions artistiques aussi, hein, des installations, des performances. Et puis également des espèces de hackathons, des résidences hackers. Alors ça c'est que la deuxième année si j'ai bien compris.
C'est
des résidences hackers 24h sur 24, donc pendant les 4 jours.
Ouais, donc le concept. On a commencé l'année dernière pour tester, et parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est qui est pratiqué dans la culture déjà, se retrouver, faire un projet avec des gens qui sont un peu éloignés et se retrouver à un endroit pendant 4 jours où on sait qu'on n'a que 4 jours et il faut avancer au maximum. En fait, la seule pression, c'est nous-mêmes qui la mettons et pour avancer sur un projet. Et du coup, là, l'idée, c'était de pouvoir proposer cette possibilité à des gens qui seraient intéressés. En France, pour l'instant, ça peut s'élargir après. Mais l'idée, c'est de proposer un moment, voilà, du jeudi au dimanche, en mode 24h sur 24, un peu dans l'idée. C'est pas réellement un hackathon, on appelle ça une forme de résidence hacker. Y a le côté hackathon dans le sens, c'est 4 jours à fond. Et en fait, les gens peuvent dormir sur place directement, voire même directement sous le bureau s'ils ont envie. Et parce que l'idée, c'est de se retrouver, de profiter du maximum du temps. En fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les gamers avec les LAN parties, ou chez des programmeurs qui font des coding parties où ils se retrouvent et, par exemple, ils font un programme, ils se donnent 2 jours pour faire un programme et ils le font en 2 jours. Donc ça veut dire pas beaucoup dormir, mais c'est plutôt pour l'émulation. Et puis là, l'avantage, c'est que du coup, comme ils sont là 24 heures sur 24, ils rencontrent tous les autres intervenants de l'événement et ça crée des relations, des liens, et des fois une personne vient les aider à travailler sur le projet. Donc voilà, c'est pour essayer de créer encore plus une émulation positive et de très bons moments entre les intervenants et puis aussi le public qui vient voir ça.
le public qui viendra donc au THSF 2017. On va se faire une petite pause musicale dans le magazine et après on détaillera certains points de la programmation parce qu'elle est extrêmement dense. Mais il y a un site web, hein, thsf.net, j'ai déjà dit. On parlera notamment de la programmation musicale et on va commencer d'ailleurs avec pas une tête d'affiche, mais enfin pas loin quand même, Phil Astin qui sera là vendredi, c'est ça ?
Jeudi.
Jeudi pour
le
l'ouverture.
Jour d'ouverture.
Voilà, oui. Avec accompagné par Nova, Phil Astin et Nova dans le magazine de Canal Sud. Phil Astin et Nova, le titre s'appelle Père Batassan, c'est sorti de leur album Dreptoumania qui vient juste de sortir, hein, c'était toute fin avril. Ils seront donc en ouverture du THSF à Mixart Miris, ce sera ce jeudi. Phil Astin, duo formé par le compositeur Grey Phil Astin et par la chanteuse Nova Rousse. Je disais juste avant le morceau que c'était un petit peu une des têtes d'affiche du festival, mais là tu disais hors antenne, Herveline, que c'est une petite tête d'affiche, mais quand même dans le milieu des créateurs de son et de l'électro comme Phil Astin, c'est un nom qui peut résonner. Mais tu disais que vous aviez un moment décidé, il y a 2 ans, de peut-être avoir moins de justement de grosses têtes d'affiche et d'avoir plutôt des concerts plus en rapport, plus connectés avec le festival dans son ensemble.
Oui, en tout cas, c'est pas forcément une histoire de têtes d'affiche. On va pas du tout les refuser, mais en tout cas de vraiment essayer de coller avec tout le discours qu'on porte et les propositions qu'on porte et qu'on défend dans le cadre de la programmation du festival sur les propositions artistiques et les conférences, que les programmations concerts du soir soient vraiment en lien et en continuité, en cohérence avec l'ensemble de la programmation, et soit pas juste qu'il y ait une coupure entre les deux avec un autre public, mais vraiment l'idée c'est que les gens qui viennent pour des concerts le soir aient envie de revenir sur les conférences le lendemain quand ils voient ce qui se passe sur la scène de concert, quoi.
Alors, bah, cette prog musicale, on va en parler. Je me tourne vers toi, Pauline. Alors, on a entendu, ok, Philastine et Nova. Bon, vous n'êtes pas besoin de représenter plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ce jeudi ?
Alors, ce jeudi, on a une... Donc, il faut savoir que la programmation musicale, souvent, se compose de performances audiovisuelles. Du coup, souvent, c'est de la musique électronique, si je ne m'abuse, pour la plupart du temps, avec de la projection vidéo grand format et du coup générée par divers matériels électroniques, ça dépend des démarches.
Ouais, c'est de la hack music.
Voilà, exactement. Et du coup, jeudi, on a Gymkhana qui est en fait Fernando du collectif 1024 Architecture et qui lui fait de la musique et il a une installation avec un module laser qui va projeter des lasers dans la salle. Donc c'est assez beau. À voir.
On imagine donc que les deux sont connectés, la musique, ouais, et les lasers.
Ouais, j'imagine ça, ouais.
Okay. Donc, c'est une boîte de nuit, quoi.
Voilà, un petit peu, ouais, c'est très néon machin, mais ça a l'air super cool.
Néon machin.
Néon machin. Architecture lumineuse.
Ah, disons, chargé aller. Développement tout de suite, tu vois, ça c'est utilisé. Néon machin d'un côté, architecture lumineuse de l'autre, bon. Ok, ensuite.
Donc ensuite, on a Elb, qui est un groupe toulousain qui a joué qu'une seule fois aux ateliers Théa, et du coup qui nous ressortent leurs créations qu'ils ont bien travaillées pour l'occasion. Et du coup là c'est un live en multidiffusion expérimentale avec contrebasse, batterie, saxophone et un autre instrument, je ne sais plus lequel.
Donc pas que des instruments électroniques, là non, ça va être plutôt l'installation sonore qui va être un peu dans le...
Voilà.
Qui
du
va
coup,
rejoindre
c'est
le
en
thème,
multidiffusion
d'accord.
Au sol et il y a des installations de basse dont les cordes vibrent selon leur préparation, donc à découvrir, je suis très curieuse de voir ça, c'est des copains
d'accord.
En plus. Après, on a Rien Virgule, mon coup de cœur personnel du festival.
Groupe du Périgord. Hein.
Groupe du Périgord, ouais. Bordeaux, Périgord, Dordogne. Et du coup, eux, ils font de la trans-trad contemporaine super, super cool. Il y a plein de nappes électro super progressives. Et il y a une super chanteuse qui chante en dialecte italien, je ne sais plus lequel. Et c'est super, super intense, ouais. Donc voilà, je vous le conseille fortement.
Rien virgule, ouais, on l'a entendu un petit peu en intro, mais on se fera le morceau complet, c'est des morceaux assez longs. Hein.
Ouais.
Bah, comme souvent, hein, dès qu'on est dans la transe.
C'est ça. Et après, alors vendredi, on est une soirée beaucoup plus électronique, expérimentale, que... Alors, c'est beaucoup plus dur à décrire pour moi, du coup. Fred, est-ce que tu as des coups de cœur à nous soumettre ?
Je vais m'occuper du vendredi, du coup. Le vendredi, on a plusieurs, effectivement, c'est très expérimental, beaucoup de performances audio-vidéo. Et en fait, historiquement, au THSF, il y a plusieurs collectifs, on va dire, autour du hacking, mais qui sont plus, enfin, qui ont beaucoup de collectifs artistes, qui sont très branchés dans l'expérimental technique, en fait, ou technologique. Et du coup, là, on accueille, par exemple, Démolécularisation. qui est un groupe c'est un projet de deux personnes qui appartiennent à un collectif qui s'appelle Pinode, qui vient au THSF depuis très longtemps et faire des expérimentations soit sonores, soit vidéo, soit les deux, soit software, logiciel. Donc c'est le cas de Pinode, c'est le cas aussi de, en fait on reçoit deux personnes de Labo Média, Olivier Baudu et Benjamin Cadon, dont on a parlé tout à l'heure, qui va aussi faire une conférence éclair, et qui vont aussi nous faire un petit live bien, bien à eux, en fait, très expérimental. Donc on va dire le début de soirée, on commence avec une perf audio vidéo, puis on enchaîne avec trois autres perfs très expérimental, puis on passe à quelque chose d'un petit peu plus en mode un peu plus classique, DJ et VJ. Bon, là pour le coup, il y a de la création tant musicale que visuelle aussi. Après, on va passer à deux artistes qui sont du collectif Mix Art Meris pour un live audio-vidéo. Au côté audio, c'est une performance sur six enceintes, donc en une forme de multiphonie sur six enceintes, et avec une deuxième personne qui fait de la projection de peinture faite live, en fait.
Donc,
qui fait les peintures en live?
Alors les peintures, c'est Nada.
Mais oui, c'est ce qui me semblait.
D'accord, tu connais.
Okay. Ah bah qu'on connaît bien, et puis qu'on a déjà accueilli Canal Sud à la Chapelle sur les journées AZF.
D'accord. Bon, j'hésiterai pas.
Votre ville fait boum.
Donc c'est Nada et puis Thomas Bigot, un artiste plasticien, musicien, menuisier, très polyvalent. Et du coup, on finit quand même avec deux concerts un peu plus... Toujours dans l'électro, mais électro IDM recherché en fait, hein, expérimental. Donc avec Samot Mot, un artiste toulousain, et ensuite Barouf, des Enfants Sages, un artiste du coin qui a un long passif de musique en free party très éclectique. Et donc ça, on va terminer la soirée sur, on va dire un peu moins expérimental, un peu plus musical dansant, mais dans tous les cas recherché.
Alors ça c'est le vendredi dans ce THSF, et puis il reste une soirée, il reste même deux jours, mais je sais pas si le dimanche il y a des concerts le soir. En tout cas le samedi il y en a. Pauline, c'est toi qui reprends la main.
Oui, je reprends la main. Alors on a notre traditionnelle scratch session sur le quai, où là c'est Vince du collectif Miris qui est scratcher et qui a son atelier, qui invite tous ses copains super scratchers et beatmakers à faire une impro de 15h à 19h, je lis, sur le quai en extérieur. Donc là, c'est eux, leur petite résidence.
4 heures de scratch.
Voilà,
pour les amateurs, c'est the place to be.
Voilà. Okay. Après, on a une performance audiovisuelle d'un collectif de gens qu'on accueille également. Qu'on accueille régulièrement. Et qui feront une conférence pour présenter leur manière de...
Leur performance, ouais.
Ouais.
leur manière de performer.
Ouais, normal. Voilà. Enfin, leur création spécifique, là.
D'accord.
Qui s'appelle Mathieu Pka, si je ne m'abuse. Et après, on part en concert pas mal 8 bits d'influence jeux vidéo. Donc, avec le One Up Collectif, qu'on connaît bien.
Ouais, qu'on connaît bien. Qui est indiqué à Bordeaux, mais qui, en fait, est toulousain, toulouso-bordelais, quoi.
Ouais,
hein, on peut dire.
Exact.
Et donc, pour ceux qui, celles qui ne connaissent pas, c'est de la musique sur Game Boy. Alors, il y a des pédales d'effet, il y a tout un tas de petites manières de tricher, mais c'est quand même un duo qui joue en Game Boy.
Tout à fait.
Sur Game Boy.
Et donc, il y aura un petit guest sur ce live d'un copain.
Super Mario, je n'y crois pas.
Ah non. Non, c'est une personne physique.
Ah bon.
Non costumée, a priori, mais pas sûr. C'est un copain de Mix Art Meris aussi, qui s'appelle Muta, qui joue avec C'est que de l'eau, on dit. Et du coup, qui aussi, lui, s'amuse bien avec une Game Boy. Il a joué l'année dernière au THSF, il a fait un petit set d'une vingtaine de minutes avec une Game Boy. Et il connaît très bien les deux personnes de One Up Collectif.
D'accord, et au One Up Collectif, on s'en écoutera un petit titre un peu plus tard dans le magazine, ouais. On poursuit sur le samedi, donc on en était à la musique 8 bits, on a parlé du One Up Collectif, et ensuite,
on accueille deux groupes de Clermont-Ferrand, dont Please Lose Battle, qui est un groupe de rock 8 bits, donc il y a batterie, guitare et Nintendo NES.
Batterie, basse.
Batterie, basse et Nintendo NES.
Ouais, alors après la NES, la Game Boy, il n'y a que Nintendo dans cette histoire-là.
Bah ouais,
ils ont marqué
y a écrit,
le monde
si
de la console
des
années 80.
Non, c'est tombé comme ça.
C'est tombé comme ça et on est très contents.
On sait que vous êtes sponsorisé par Nintendo. On mène l'enquête.
Et le deuxième groupe clermontois qu'on adore et on a très très hâte de voir, c'est un des gros coups de cœur aussi qu'on a envie de découvrir, c'est Speedrunning The Apocalypse, qui est composé de la moitié de Priapisme qu'on a vu à Miris en décembre.
Décembre, ouais.
Oui.
pour le grand bal d'un archer
pour le grand bal du UK, exactement. Et d'un membre de Please Lose Battle et d'un joueur de Nintendo NES, champion européen de Mega Man 2. Pour
pas n'importe lequel.
Non, voilà. Et du coup, en fait, le concept...
Oui, il s'appelle Acharf.
Oui, voilà.
C'est le meilleur joueur français, effectivement, et français. Parmi les meilleurs européens de speedrun.
Et donc, le concept, c'est que ce meilleur joueur va jouer à trois jeux vidéo sur NES, que sont Mega Man 2, Contra et Castlevania.
Yes.
Voilà, Fred peut vous confirmer que c'est les meilleurs jeux du monde.
C'est les meilleurs jeux du monde en 87 et...
c'était pas oui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Sur la NES, quoi. 30. Il y a 30 ans, oui, t'as raison, on vieillit.
Et qui ont des BO incroyablement bien composés. Et du coup, là, le but, c'est pour le joueur de terminer le jeu le plus vite possible et pour les musiciens de le suivre en live et d'exécuter exactement la musique.
Ils font la bande-son, en fait. Ils font la bande-son. C'est-à-dire, s'ils meurent, ils doivent faire la musique du game over. Ils sont en mode... ils font la bande-son, quoi.
Et s'ils meurent trop rapidement, ils recommencent le morceau ou le concert est juste très court?
Ils recommencent et ils finissent les jeux.
C'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur français parmi les meilleurs européens. Ils arrivent à ne pas mourir tellement ils connaissent le jeu.
Voilà, et donc écran géant à l'appui pour supporter le joueur.
Donc ça, c'est le samedi soir, ça va être certainement un des clous de cette programmation, ouais. Speedrunning The Apocalypse.
Si on peut se permettre, c'est vraiment un gros coup de cœur, et c'est quelque chose qui se fait quasiment pas. En fait, quand ils sont venus, quand Priapism sont venus jouer à Mixart en décembre, en parlant avec eux, il y a un groupe américain qui fait ça, qui s'appelle Beat Brigade. Si vous voulez avoir un aperçu du concert, allez voir dans votre YouTube favori, Beat Brigade Mega Man 2, et vous aurez tout de suite un live qui montre ça. Et c'est quelque chose qui en France est fait, je sais même pas s'il y a un autre groupe qui font ce genre de performance, en fait. Et c'est vraiment exceptionnel et absolument à voir.
Mais alors, connaissant les musiciens, on sait que ça va être très bien.
Oui, le son va être très bien, même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, vous pouvez à un moment fermer les yeux, pas regarder l'écran, et ce sera quand même du bon son. Si tu nous renvoies vers un site, vers un groupe américain, pardon, ça veut dire que Speedrunning The Apocalypse n'a pas encore tellement tourné.
Ils ont tourné, mais il n'y a pas trop de traces de leur performance jusque-là.
En fait, c'est quelque chose qui est très peu connu, ce genre de performance. Et du coup qui se fait très peu et qui simplement est peu demandé, en fait, c'est ça. Là, c'est tombé vraiment par hasard qu'ils connaissaient ces gens-là et qu'ils adorent ça, et enfin qu'ils connaissaient le groupe américain, et tout de suite ils nous ont dit mais on peut le faire aussi, et du coup on a eu les yeux qui brillent, parce que c'est vraiment très rare à voir ça, et donc c'est vraiment quelque chose à faire, à voir.
D'accord, donc ça c'est le THSF le samedi, et puis il y a quand même, ça se poursuit le dimanche, ce dimanche 28 mai. Est-ce qu'il y a encore de la musique le dimanche 28 mai?
Oui, il y a un petit concert de Nibul, qui est un groupe toulousain aveyronnais, que j'aime beaucoup aussi, plus jazz expérimental. Il n'y a pas tellement de machines, mais dans la composition de la musique, on retrouve des trucs, enfin une manière de composer assez similaire à l'électronique expérimentale.
Non, mais Pauline, tu peux dire que tu t'es fait plaisir, et que tu avais envie d'un petit concert de Nibul pour terminer ces 4 jours de THSF. Allez, bah écoutez, on va s'écouter justement un peu de One Up Collectif. Le morceau s'appelle Cool 7 ou Cool 7, je ne sais pas, morceau de 2013, One Up Collectif, donc musique sur Game Boy à la fiche du THSF le vendredi. Et oui, vous êtes toujours sur le magazine de Canal Sud. On vient de s'écouter le One Up Collectif. Le titre s'appelle Cool Seven. Alors le One Up Collectif, on l'a dit, musique sur Game Boy, mais ils ont d'autres manières de jouer avec les supports notamment, puisqu'ils ont sorti des albums sur cassette. Bon, ça commence à bien revenir, mais également sur clé USB. Ça aussi, c'est pas si original que ça, mais quand même. Et ils ont même sorti il y a pas très longtemps une disquette, hein, les bonnes vieilles disquettes. Ils ont sorti un album sur disquette. Bon, en fait, ils avaient mis deux titres. Ultra compressé, même en 8 bits, c'était dur à rentrer. Et du coup, la disquette était accompagnée d'un code pour aller sur Internet, pour aller récupérer les morceaux en bonne qualité. Parce qu'évidemment, ta disquette, déjà, il faut pouvoir la lire. Et puis surtout, après, c'était compressé à mort. Voilà, donc ça, ce sera à l'affiche le vendredi, hein, c'est ça ?
Le samedi.
Le samedi, oui. One Up Collectif. Donc samedi, au THSF, le Toulouse Hacker Space Factory, ou la Toulouse Hacker Space Factory, dont on parle avec Herveline de Mixart Miris, avec Fred du Tétalab et avec Pauline de Mixart Miris, d'un archer dans Luca, d'un peu partout.
Voilà.
Citoyenne du monde, Pauline. Alors, on va pas vous faire le programme. On a déjà un peu détaillé le programme musical. Après le programme de ces 4 jours de THSF, hein, du 25 au 28 mai, il est extrêmement dense. Donc, on vous renvoie à nouveau vers le site internet thsf.net. Mais on va quand même parler de quelques petites choses qu'on va retrouver au cours de ces 4 jours. Et notamment les conférences avec 4 grands cycles cette année pour cette édition 2017. Fred.
Ouais, c'était une tentative. D'essayer de regrouper un peu autour de 4 thématiques qui font partie de la culture hackerspace, enfin culture hacker tout court. Et bon, après, c'est bon, on a fait avec les gens qui venaient et les personnes qui venaient. Du coup, bon, il y a 4 grands thèmes qui se dégagent. Le jeudi, on commence un peu tranquillement avec autour de la thématique de l'open source et du libre. Donc là, on parle de logiciel ou de matériel. Et donc, en coup de cœur, on pourra parler d'un projet qui va être présenté par Elekin, qui vient nous parler d'un projet de smartphone matériel et logiciel libre. Donc ça devrait être très intéressant. Et plus généralement, on parlera d'alternatives à Google, d'alternatives à des logiciels qui existent et qui sont pas forcément intéressants et dont des versions libres sont beaucoup mieux à utiliser.
On en reparlera tout à l'heure, hein, de ce projet de smartphone matériel, c'est le projet Neo 900. D'accord. On en reparlera dans un petit moment, mais on se fait un petit tour d'horizon de ces conférences et surtout des cycles, hein. Donc ouais. les cycles, si je dis pas de bêtises, moi je vois enjeux politiques, enjeux sociaux, droit et liberté sur internet, journalisme d'investigation.
C'est ça. Donc ça va être le jeudi, ça va être l'open source,
que ça soit par jour. Du coup, c'est un thème par jour à peu près.
Ouais, en fait, d'accord. Il s'est trouvé qu'on ça a pu se goupiller comme ça, et du coup, au final, ça donne cette impression qu'on l'a préparé comme ça, mais ça se passe.
Mais c'est juste un coup de bol.
Mais c'est juste pas mal un coup de bol. Et du coup, le vendredi, là, c'est une journée, pour le coup, qui est axée lanceur d'alerte, journalisme d'investigation, avec des gens qui sont très actifs, en parlant de Jérémy Zimmermann, des cofondateurs de la Quadrature du Net, Marc Ries, un des cofondateurs du journal Next Impact, des personnes de Reporters sans frontières qui sont très actifs aussi, qui vont venir présenter une conférence. Et on accueillera Marc Meyassou, qui a fait un documentaire qui s'appelle Nothing to Hide, autour de toutes les choses qui seront discutées dans la journée. J'en parle pas plus que ça, il faut vraiment venir, parce qu'il y a aussi des choses qui sont abordées, qui seront pas diffusées en live, parce qu'il y a des choses qui sont faites et qui peuvent pas être expliquées forcément tout le temps sur toutes les ondes, donc il faut vraiment venir. Et donc on clôturera la journée avec une table ronde avec peut-être, si tout va bien, tous les invités de la journée, qui se connaissent déjà tous et qui ont vraiment des choses très, très intéressantes et très importantes à communiquer. Donc ça sera le vendredi. Journalisme d'investigation, on va dire, lanceur d'alerte. Le samedi, on est un peu plus autour de l'engagement social, en fait, sociopolitique. On reçoit Bernard Friot pour une conférence gesticulée. On reçoit un groupe...
on en dit un mot quand même, conférence gesticulée. Donc lui, il est Bernard Friot, c'est un nom qui peut-être évoque quelque chose aux auditrices et aux auditeurs. Il est membre du réseau Salaria, et sa conférence gesticulée, c'est « À quoi je dis oui ou comment retrouver la dynamique de notre histoire populaire ?» et au cours de laquelle il présente notamment le concept de salaire à vie. Alors, je voudrais quand même qu'on en dise un mot, parce que le lien avec le thème hacking ou avec le Toulouse Hacker Space Festival paraît pas évident. Qu'est-ce qui vous a amené à aller chercher Bernard Friot là, pour ce THSF?
Dans la culture hacker... on peut considérer que la façon dont la politique et le comment on vit ensemble est tout à fait à propos, en fait. C'est-à-dire, comment on s'organise en société. En fait, c'est pas l'apanage des gens qui font l'ENA. C'est l'apanage des gens qui ont un cerveau. Et donc, à partir du moment où on a un cerveau, on peut commencer à s'organiser. Et quand on voit un peu le présent et puis l'histoire qui nous montre le passé, et ça donne envie de réfléchir, peut-être de ne pas passer par l'ENA pour réfléchir et de se poser autour d'une table et de discuter, quoi, de s'instruire et d'aller dans le sens de participer, de collaborer et voir si on peut contribuer finalement au modèle sociaux.
Après, il y a aussi l'idée qui traverse le THSF depuis toujours et qui montre aussi la réunion de Myris et du Theta Lab. C'est vraiment, comme en parlait tout à l'heure Fred à la base de la culture hacker, c'est la question du partage des ressources et donc des richesses. Et là, on recroise des questions plus sociétales et c'est quand même des conférences. Il y a tous les ans une partie vraiment là-dessus et qui dépasse la seule question des technologies, des nouvelles technologies et qui pour vraiment rejoindre des questions plus larges d'actualité et de réflexion sur la société contemporaine.
Alors Bernard Friot, donc ce sera le samedi, c'est ça ?
Samedi après-midi. Tout à fait.
Le samedi.
C'est 3 heures de conférence avec une entracte de 45 minutes et la conférence sera traduite en langue des signes.
Et c'est une conférence gesticulée, on le reprécise. Donc c'est un peu la conférence gesticulée. On en a parlé déjà il n'y a pas très longtemps quand on parlait du festival d'éducation populaire Le Vent se lève. C'est des conférences théâtralisées. Donc pour ceux qui ont peur de se farcir 3 heures de conférence, il faut bien imaginer quand même que tout ça est fait aussi pour être un peu plus théâtralisé, un peu plus joué.
Tout à fait. Donc on reçoit aussi, je pense que c'est bien au moins de les mentionner, on reçoit les exégètes amateurs qui viennent de Paris, là, nous expliquer, en fait leur conférence est intitulée « 2 ans de militantisme judiciaire ». Et en fait, ce sont des gens qui se battent quand des lois sortent, des lois qui menacent les libertés du citoyen sur Internet, ou son accès à de l'information, en fait. Ce sont des gens qui vont se battre à l'Assemblée, qui ont vraiment une action militante, pour le coup, et proactive, afin de défendre nos intérêts, en fait, de citoyens.
Oui, voilà. Ils ont porté en justice des combats tels que... des combats contre la loi renseignement, par exemple, contre la conservation des données, contre la censure sur le net, voilà, pour donner quelques thèmes sur lesquels ils se battent.
Exactement. Donc ça sera, ça fera une grosse journée de conférences. On reçoit aussi Hacking Social qui était venu l'année dernière.
Oui, ça c'est intéressant, il faut en dire un mot. Oui.
Oui, et qui, donc voilà, ils viennent nous parler de pourquoi Pôle emploi nous déprime et comment y remédier. Et donc ils ont une chouette approche de sociopolitique, de ce qui se passe chez nous, ici.
Alors on peut peut-être donner leur définition de ce qu'ils appellent le hacking social, parce que c'est peut-être pas évident. Ça consiste, selon eux, à détourner les structures sociales dans le but d'améliorer l'environnement du plus grand nombre, de lutter contre les discriminations et les rapports de domination, de débrider l'individu des déterminations exercées à son insu. Avant, on débridait sa mobilette, c'était du hacking dans son garage. Maintenant, on essaie de débrider l'individu. Donc voilà, on voit bien, on revient sur cette notion de hacking au début.
De réappropriation.
Voilà, réappropriation, y compris, alors là, et ça paraît moins évident, parce que autant on comprend bien qu'une machine, un ordinateur qu'on a chez soi, on peut aller dessouder, ressouder, mettre une carte en plus, le connecter avec quelque chose d'autre, etc. Autant le Pôle emploi, là, on a une structure, une institution en face, et on se demande bien comment on peut en faire bouger les contours, les lignes, et le quotidien qu'on entretient avec cette institution-là. Donc ça, ce sera le samedi.
Samedi après-midi.
Voilà, ils ont fait une étude sur le Pôle emploi et ils partageront leurs conclusions avec nous.
On va bien se marrer.
Ou pas.
Ou pas.
Les gars, il n'y a rien à faire. On a tout testé. C'est comme ça.
Donc ensuite, peut-être j'enchaîne rapidement avec le dimanche. Là, pour le dimanche, il y a moins de thématiques, on va dire. Il y a qui se partage entre ces conférences. Hein. C'est la dernière journée de. Donc globalement, il va y avoir une chouette conférence participative. Enfin, comment on dit
Une conférence dont vous êtes le héros.
Voilà. Conférence dont vous êtes le héros, c'est ça. Qui s'appelle Jazz et jeux vidéo, un mariage impossible. C'est une conférence ludique et interactive sur l'histoire du jazz et de la musique plus généralement dans les jeux vidéo. Justement, ça rejoindra un peu les gens auront été bercés la veille par des musiques de jeux vidéo et auront un chouette moyen de
chercher le jazz.
Le dimanche, c'est un peu plus jazz. Hein.
Ouais, pour le coup. Donc après, on reçoit aussi une association Entropie qui vient parler du design libre, quels sont les enjeux politiques et les réalisations, la façon de travailler. En fait, encore une fois, c'est réfléchir au logiciel, au concept du libre, mais dans un domaine qui, lui, est historiquement ou traditionnellement commercial, pour le coup, et comment arriver à faire du libre dans le design, en fait.
Voilà, donc ça c'est le cycle de conférences, on n'a pas tout détaillé, oui, évidemment, oui, c'est pas possible. Il y a également pas mal d'ateliers, tu voulais en dire un mot, Herveline ? Pas mal d'ateliers, tous les après-midi, hein, dès 14h, donc vous pouvez arriver tôt à MixArt Méris pendant ces 4 jours. Alors, ça va de l'initiation à la soudure, en passant par le hacking de consoles de jeux, jusqu'à la conception de jeux vidéo en open source. Je vois aussi atelier ludique de composition musicale collective, là j'imagine que là-dedans, on y retrouve le...
On parle bien de Bilal et Stick Em Up.
De Stick Em Up, voilà, Bilal et Laure. Il y a également... qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Les petits coups de cœur, on va dire, il y a un atelier...
Herveline fait des signes, elle nous dessine un tambour.
Je ne sais pas comment s'appelle cet atelier, c'est des disques.
Ah, la gravure de disques. Oui, ça c'est un gros coup de cœur des gens qu'on a rencontrés, deux personnes qu'on a rencontrées l'été dernier, et qui viennent avec une machine pour graver des disques. Et donc, il sera possible de graver des vinyles sur plexi, des plexis, on va dire, donc qui sont un petit disque où on peut graver 3 minutes 50 ou 4 minutes de morceaux.
Oui, parce que j'avoue que j'avais vu gravure de disque, je voyais pas trop l'intérêt, mais bon, graver des disques, on sait tous le faire.
Là, du coup, ils viennent avec des machines analogiques pour faire du son, et du coup, ça fait un disque qui peut être réécouté 100 fois, donc c'est un peu collector, ça sera surtout l'occasion, je pense, pour le public de s'amuser, et pour tous les musiciens qui viennent au festival, de se faire sur place un petit plexi et qui pourront garder et réécouter de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est un atelier coup de cœur. Il y a un atelier aussi, une équipe qui s'appelle Défocalise qui vient faire un atelier sténopé pour apprendre à fabriquer des appareils, c'est assez simple technologiquement, des appareils de sténopé et pour prendre des photos et donc ensuite développer avec des techniques do it yourself, de développement photo en fait aussi. Donc c'est là pour le coup, c'est apprendre à faire des photos de A à Z, fabriquer son appareil, prendre les photos, puis développer avec des techniques libres. Voilà. Il y aura aussi de la programmation de robots Boombot. On a réussi à faire venir une équipe de Planète Science Occitanie. Aussi, ça, c'était une envie de travailler avec des associations de vulgarisation scientifique ou de transmission de la science aussi.
Qu'est-ce que c'est un robot Boombot?
Ouais, c'est un robot en fait. Hein. Là pour le coup, c'est de l'initiation à la programmation de robots. Donc on va dire, on est au croisement entre l'algorithmique, un peu d'électronique, mais ce sont des robots assez simples qu'on peut fabriquer à petit budget. D'accord. Et qui permettent de commencer à s'initier à la robotique derrière.
C'est le début du robot. Alors je précise parce qu'on l'a pas dit et que peut-être les auditrices auditeurs ne connaissent pas le Stick Em Up, l'atelier Stick Em Up dont on parlait, c'est de la musique par joystick. Hein. Il y a plein de joysticks, des volants, des manettes de jeu, etc. Et ça permet de faire du son en collectif, ensemble, en live. C'est très très chouette. Voilà. Donc tous ces ateliers-là et bien d'autres, de 14h jusqu'à 18h et un peu plus tous les après-midi. Oui, Fred, tu voulais rajouter quelque chose?
Je rajoute un truc, c'est en fait, historiquement, on fait pas la distinction entre ateliers participatifs, collaboratifs et des associations qu'on invite aussi. On n'aime pas trop le mot stand, alors du coup, on sait pas trop comment le dire à chaque fois, donc on va dire atelier et asso. Et du coup, on reçoit plusieurs associations, en fait. On reçoit Tétin Neutral, qui sont un MixArt Méris, qui est un fournisseur d'accès Internet militant. Et on reçoit aussi l'association Zeste de Savoir, qui est dérivé du site du Zéro et qui est un site de diffusion et de partage de ressources pédagogiques libres et gratuites. On reçoit la quadrature du net aussi, on reçoit le réseau Salariat avec Bernard Friot, l'association Framasoft et une petite association qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert, qui s'appelle Solidaire Informatique, qui viendront nous parler de comment les informaticiens peuvent commencer à s'organiser pour avoir un poids face à leur patron dans les SS2I, comment les informaticiens peuvent ne plus devenir des esclaves au service d'un patron et s'organiser afin de réviser leur statut, leur position. Ça devrait être très intéressant.
Alors là-dessus, donc ça, les ateliers, hein, on vous redonne une énième fois le site thsf.net pour avoir le détail. De toute façon, venez hein, à Myris dès le jeudi, dès 14h, et vous ne manquerez pas d'activités, de choses à faire, et vous pourrez manger sur place, boire un coup sur place, évidemment. C'est comme tous les événements à Myris, c'est prix libre.
Participation libre est nécessaire.
Mais nécessaire, évidemment, mais il faut quand même le souligner, il n'y a pas tant de lieux, et surtout sur d'aussi gros événements où la participation est libre. Même si elle est effectivement tout à fait nécessaire. Alors, on va quand même, pour terminer ce magazine consacré au THSF, j'aimerais revenir sur l'aspect politique. On en a pas mal parlé. On entend bien que, effectivement, votre vision du hacking, elle est plus large que simplement l'informatique, et que même si on l'apprend d'ailleurs que sur la partie informatique, il y a un enjeu politique derrière, etc. Mais moi, je m'interrogeais quand même sur... je vois bien l'intérêt dans ce monde de plus en plus numérique, etc., de se réapproprier ces outils, surtout qu'ils sont pour plein de gens extrêmement mystérieux. On leur offre des ordinateurs, et puis quand ça marche plus, le moindre truc, les gens sont complètement... Beaucoup de personnes, en tout cas, sont en panique. Enfin bon, on voit bien qu'il y a du Paulina Kies. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a comme ça une espèce d'objet à la fois... Enfin, une série d'objets qui prend énormément d'importance dans nos vies, dans nos quotidiens, et en même temps, une absence de maîtrise sur ces objets-là, voire même quelque chose de complètement obscur pour on peut le dire, une majorité de la population. Malgré tout, ce qui est mis en avant, là, j'ai l'impression, dans le THSF et dans toutes ces tentatives, ces expériences de hacking collectif ou pas, c'est une réappropriation des outils, mais est-ce qu'il y a vraiment une remise en question de cette numérisation à marche forcée de nos vies, de nos existences, et vraiment là, quand je dis nos existences, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on voit bien que plus ça va, plus on est en train d'aller vers l'homme bionique, il y a quelque chose d'un peu flippant comme ça, et justement, c'est pour ça que je voulais revenir sur le projet Neo 900, donc je le redis, hein, le projet Neo 900, tu en as dit un mot tout à l'heure Fred, c'est un projet mené par Elkin d'un smartphone matériel, c'est-à-dire on va développer un logiciel...
C'est un smartphone matériel et logiciel libre.
Et logiciel libre.
Ça veut dire qu'on parle ici d'un téléphone portable qui serait constructible par n'importe qui et dont en fait on pourrait récupérer du logiciel. Donc libre,
voilà,
aussi.
Libre. Donc c'est ça. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des smartphones, tout simplement ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une connexion permanente, etc. Enfin, oui. Je prenais cet exemple-là, avant de te laisser répondre, juste pour parler de à quel moment on s'arrête et on fait une pause et on réfléchit à la manière dont nos vies sont de plus en plus numérisées à tout niveau. Tu as parlé des ludites tout à l'heure et du mouvement des néoludites, donc de mouvements qui sont quand même extrêmement méfiants envers la machine et envers la numérisation du monde. Et c'est vrai que ces événements-là me posent cette question, où est la place pour réfléchir à ça
On n'est quand même pas dans un événement où on vient présenter, c'est pas une foire à la technologie.
Évidemment non.
C'est-à-dire que n'importe quel intervenant que vous croiserez là-bas a déjà un regard qui n'est pas celui qui est standard vis-à-vis de la technologie. La technologie, c'est un outil. C'est-à-dire que l'outil, c'est fait pour faire quelque chose. Moi, j'ai peur des humains, j'ai pas peur des outils. C'est les humains qui manipulent les outils. C'est les humains qui construisent des outils. Et donc, en fait, ce qui est dangereux, c'est quand nous, humains, on ne parle pas entre nous et que, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est ça qui se passe, en fait. Il suffit juste de regarder... tous les jours, on se rend bien compte, et encore une fois, vis-à-vis de l'histoire, etc. Donc je pense que se dire que c'est trop numérique aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'à un moment, des gens ont dit la même chose de la vapeur, en fait, de la technologie de la vapeur.
C'est pas tout à fait les mêmes
conséquences. Quand les gens ont pris des trains, quand le train est arrivé et qu'on ne se baladait plus à cheval, il y a ceux qui trichent et qui utilisent ce gros truc qui fait de la fumée noire et qui pollue. Enfin, je veux dire, bon, à quel moment on se dit que on a des possibilités? Ces possibilités, par exemple, la physique atomique permet de faire de la thérapie aux protons, au rayonnement avec des protons pour soigner le cancer. mais elle fait aussi des centrales nucléaires et aussi des bombes atomiques. Mais ça veut dire, est-ce qu'il faut se passer de la thérapie par rayonnement proton pour pouvoir, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr que... En fait, tout ce qui est important, c'est l'utilisation, et c'est ça qu'on essaye de discuter dans le festival. C'est que, enfin, dans le festival, dans l'événement, c'est les...
Dans la factory.
Dans la factory, pardon. C'est-à-dire, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait avec le savoir, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait avec, avec le savoir et qu'est-ce qu'on fait tout court, enfin, quelles sont nos actions en...
Et comment on ne laisse pas surtout des puissances économiques, politiques, se saisir seules de ces outils qu'on construit pourtant collectivement et dont effectivement tout le... qui aujourd'hui font partie de nos vies. Donc il ne s'agit pas d'être en dehors de cette contemporanéité-là, mais plutôt d'amener tout le monde à avoir un esprit critique par rapport à ces outils et à s'approprier ce qu'ils veulent dire en termes de surveillance, de contrôle des populations. Et tout, enfin, un certain nombre de conférences viennent vraiment nous informer, nous alerter là-dessus. Et puis après, tout ce qui est le côté atelier, c'est bah, justement qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est donc apprendre à les manipuler et du coup à être un peu moins passif devant ces outils, et quand on les achète, quand on les consomme, savoir de quoi ils sont faits, et puis toute la partie création artistique, c'est aussi voir comment ils nous mènent ailleurs que dans la consommation, que dans une espèce de logique commerciale et de consommation passive et sans fin, quoi. Donc le côté politique de la proposition, il est... je crois, à cet endroit-là.
Oui, oui, il est assez clair, ça c'est sûr. Mais juste quand même pour rester sur ce débat, parce qu'il me semble que c'est quand même assez intéressant, on voit bien, même si effectivement, comme tu l'as dit Fred tout à l'heure, et comme tu viens de le redire Evelyne, le savoir c'est une aventure collective, hein, c'est une aventure humaine collective, et évidemment qu'un smartphone, il est héritier de longs parcours scientifiques, etc. Mais enfin, à la fin, le smartphone en tant qu'objet, c'est pas une création collective, c'est une création industrielle très précise qui vient de grands groupes industriels, etc. Même s'ils ont utilisé des savoirs existants. Donc, j'ai l'impression quand même que, par exemple, sur le cas du smartphone, mais qui est un exemple typique, mais on pourra en prendre d'autres, hein. On vient récupérer un objet qu'on nous a mis dans les pattes il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est très récent.
Qui a été créé en général par des industries qui ont collecté beaucoup de données auprès des futurs consommateurs et qui ont créé ce nouveau besoin à partir de ces données. C'est dans ce sens-là aussi qu'on parle de collectif par rapport à ces outils-là, c'est qu'ils sont créés par des industries qui reposent leurs recherches et leurs innovations uniquement sur la collecte de données et de savoir des comportements de chacun et sur cette surveillance-là. Et ils créent toujours des nouveaux produits. Après, c'est comment on n'est pas victime de ça, mais aussi acteur. Et on sait comment on maîtrise les informations qu'on donne ou pas à ces industries.
Pour le coup du téléphone, ce type de projet qui va présenter Elekin, et d'ailleurs il y a une autre personne qui vient en résidence travailler sur un projet de ce type, c'est que le problème c'est que quand des personnes ont réussi à rétro-ingénierer les téléphones portables, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur, dans certains, il y a des puces qui sont actives même quand le téléphone est éteint. Et tout ça, c'est en fait se réapproprier la connaissance, c'est pour ne pas être surpris en fait, c'est pour mieux prédire et mieux comprendre. Donc j'ai un téléphone, il paraît que ça peut créer des soucis à tel endroit, que ça soit vie privée, que ça soit médical, que ça soit, mais en fait c'est voilà, il faut être capable de lire des analyses et voir qu'il y a une longueur de pénétration des ondes électromagnétiques dans le cerveau quand on utilise le portable, tant de temps, etc. Il faut aller se renseigner. Et de l'autre côté, quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il est construit et qu'on n'a pas les plans libres et du coup, on ne sait pas ce qu'il fait. Et que tout d'un coup, il y a un module qui écoute et qui balance toutes ces infos à un autre endroit. C'est un peu comme les cookies sur Internet. On va sur Internet et puis tout d'un coup, on reçoit plein de pubs parce que les personnes qui ont fait les sites ont mis en place des mécanismes pour récupérer des infos et ensuite vendre ces infos à des boîtes commerciales et qui vont nous envoyer des pubs. Enfin, tout ça se passe. Et dans le téléphone, c'est scandaleux. Il y a eu plusieurs exemples de plusieurs millions de on va dire de pas de clients, mais j'allais dire de clients d'iPhone, de propriétaires d'iPhone, toutes leurs data se sont retrouvées au FBI. Enfin, il suffit d'aller regarder, c'est totalement scandaleux ce qui se passe avec le téléphone. Et surtout, ce que ça pose comme question, c'est un objet arrive, qu'on l'utilise ou pas, qui l'a fait, comment il l'a fait à l'intérieur. Et là, on voit bien qu'il y a eu plein de précédents où ces objets étant un peu mystérieux, parce qu'il faut avoir la culture pour pouvoir les commencer à se plonger dedans, on va dire d'un point de vue matériel, hein, vraiment physique, là, pour le coup. En fait, je me suis perdu. Non, si, je me suis perdu. C'était par rapport au téléphone. Bon, oublions.
Oui, oui, tu étais sur le contrôle, ouais, tu nous parlais, ouais, sur le contrôle. Du contrôle que permettait le téléphone.
Oui, de se le réapproprier, ça permet d'être sûr que quand, qu'il ne fasse que ce qu'on a envie qu'il fasse, en fait. C'est la seule manière, en fait, et c'est vrai pour tout plus généralement. En fait. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, c'était anormal si on ne savait pas réparer une voiture. Tout le monde savait réparer une voiture. Tout le monde avait une voiture. Donc on était anormal si on ne savait pas réparer une voiture. Aujourd'hui, personne n'est anormal parce qu'il ne sait pas réparer son PC. C'est étonnant de voir cette espèce de standard par rapport à une technologie, puis une autre. Et pourquoi comment on réagit, comment on fonctionne quand un changement arrive dans la société, quoi, globalement. Donc voilà.
Alors, pour terminer, peut-être simplement, est-ce qu'on n'est pas quand même réduit à suivre un petit peu toujours les évolutions technologiques et la numérisation du monde et de notre quotidien? C'est-à-dire qu'on essaie de se récupérer, mais on a toujours un train de retard. Et puis, on peut se demander, deuxième temps un peu de cette question, enfin, j'appelle à vos réflexions personnelles, hein, on ne tranchera pas le débat évidemment aujourd'hui. Deuxième temps, est-ce que aussi à un moment, la technologie ne va pas arriver à un point où ce sera de toute façon très compliqué de se la réapproprier? Je pense notamment à tout ce qui est nanotechnologie.
Absolument jamais. En fait, les études de physique qu'il faut pour comprendre l'ensemble de la technologie qui nous entoure, c'est 5 ans d'études après le bac. Le niveau du bac, il est vraiment lamentable. On pourrait avoir le même niveau mental beaucoup plus tôt. En fait, en termes de potentiel, hein, je veux dire, vraiment, il suffit de faire des études longues pour se rendre compte le niveau qu'on a à la sortie du bac. D'ailleurs, un étudiant qui a 20 en maths à la sortie de son bac et qui va en maths sup, son première note c'est 3. Et on lui fait comprendre que oui, il était très fort pour le niveau du bac, mais qu'en fait, il est au tout début d'une grande aventure. Et donc du coup, je pense qu'à un moment, c'est est-ce que dans une tribu primitive, on doit apprendre à fabriquer les outils, tout le monde doit le savoir pour les outils pour chasser. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ça? C'est-à-dire de se dire, voilà, les choses qui nous entourent, il faut qu'on sache de quoi elles sont faites et quel était le but, comment ça fonctionne, pour qu'on puisse le transmettre. C'est-à-dire que sinon, les générations d'après, elles nous voient utiliser des objets qu'on ne sait pas réparer, qu'on ne comprend pas, et c'est tout à fait dangereux. En fait, je pense que au lieu d'avoir peur de la technologie, je pense qu'il faut se la réapproprier, comprendre d'où ça vient, en fait, et comprendre pourquoi on est arrivé là et comment ça marche, en fait. Et après, on peut commencer à avoir le choix de dire je l'utilise ou pas. Et on peut discuter de l'utilisation. Mais je pense que le premier truc, c'est comprendre comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Un ordinateur, c'est pas fait pour contrôler les gens. Ça a été fait parce qu'à un moment, dans l'histoire de la science, on va dire, l'ordinateur, il est venu parce qu'on s'est rendu compte que quand je veux résoudre une équation, je suis pas sûr, tant que je l'ai pas terminée, de combien de temps va me prendre le calcul. Et il y a des calculs très compliqués qui pourraient impliquer qu'il faudrait un temps infini pour résoudre l'équation. Du coup, je vais pas me lancer là-dedans. Mais on ne peut pas le savoir tant qu'on l'a fait. Donc c'est purement des considérations théoriques pour comprendre le monde qui nous entoure à la base, qui ont amené l'informatique, finalement. Mais l'idée, c'est que l'ordinateur, c'est un cerveau qui est plus rapide et plus puissant, en fait, puisqu'il peut traiter des données que nous, qui sont beaucoup trop longues pour nous. Donc c'est ça, l'ordinateur, à la base. Et même au-delà de ça, c'était essayer de comprendre comment fonctionne un humain. Il y a de la mémoire et il y a des processus... Qui sont des programmes qui jouent avec cette mémoire. Et en fait, l'idée, c'est quand même que c'était un peu d'essayer de comprendre comment on est nous et comment ça marche. Donc, et c'est tout ça qui a amené l'informatique. Et en fait, ça, on ne peut pas se dire que c'est nocif, par exemple, pour le coup. Du coup, c'est très important, je pense, de quand même se renseigner et d'être éduqué, en fait, là-dessus, sur tout ce qui nous entoure, de manière à pouvoir mieux agir, il me semble.
Est-ce qu'il y a d'autres réflexions là-dessus? Non. Allez, bah, bon, en tout cas, voilà, vous pouvez donc réfléchir à tout ça et surtout vous rendre au Toulouse Hackerspace, la Toulouse Hackerspace Factory du 25 au 28 mai, donc ce week-end, hein, dès c'est après-demain, à Mixart Miris. Et donc, ce sera aussi un moment de réappropriation, comme vous l'avez dit, des outils numériques qui nous entourent. Et donc, de lutter contre une forme de domination aussi, hein, qui est celle, la domination numérique, c'est aussi une réalité. Tout le programme sur thsf.net. On va se quitter avec Rien Virgule, titre qui s'appelle 30 jours à grande échelle. On avait entendu le début tout à l'heure en introduction. Là, on va se le faire en intégrale. Merci à vous trois, Herbeline, Fred, Pauline.
Merci beaucoup.
Bon courage pour le festival.
Merci.
Bon jazz le dimanche quand vous serez bien fatigués.
Ça va être super.
Et à très vite. Allez, merci. Rien Virgule dans le magazine.
Oh, no, no.